lundi 25 mars. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et je vous souhaite la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Pour vous aujourd'hui, retour sur le week-end de course en Australie. On termine avec les réponses à vos questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou adresse courriel F1podcast en un mot en commercial gmail.com. Mais pour débuter, voici l'actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de la FSR Team, la Friends Sim Racing, qui vous invite à rejoindre leur groupe Facebook afin de ne rien manquer de l'action de leur championnat qui se dispute présentement les soirs de semaine sur la chaîne YouTube du GTCQ.tv. Tout d'abord, dans l'actualité, on débute du côté de McLaren, qui a décidé d'opter pour la stabilité avec une prolongation de contrat à leur PDG, M. Zak Brown, qui sera avec l'équipe Papaye Orange jusqu'à la saison 2030. Lui, qu'il est là depuis 2016. Il fait du bon travail, on est forcé d'admettre, même si au début, il était un peu sous-estimé, un Américain qui arrivait en Formule 1. Il y avait beaucoup de chapeaux aussi parce qu'il s'occupe de la division Indy. C'est lui aussi qui s'est chargé d'emmener McLaren en Formule électrique, en électrique extrême. Donc, il y a plusieurs volets qu'il a ajoutés à cette écurie-là. Il a dû surmonter les problèmes financiers. On a dû faire une restructuration à l'interne. On s'est débarrassé de James Keyes. Il a mis Andrea Stella en poste. Je pense que ça a été une bonne décision. Il y a aussi eu le côté fort de Brown, eh bien, c'est le marketing, et ça aussi, on doit lui lever notre chapeau parce qu'il a réussi, il a ramené les couleurs, le orange papaye, que jusqu'à maintenant, c'est une réussite. On sait aussi, même côté vêtements, McLaren se retrouve parmi les meilleurs vendeurs partout à travers le monde. Lorsque la Formule 1 se déplace, on peut voir là, les couleurs orange bien affichées partout, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de ventre d'effets marketing, donc les chandails, tous les produits dérivés de la marque se vendent bien. Ensuite de ça, eh bien, sur la piste, ce qui est le plus important, bien, il a réussi à aller chercher les services d'un jeune prodige en Oscar Piastri. Il a volé à Alpine, je pense qu'il a eu du flair, il a vu l'opportunité, puis il a bien fait de la saisir parce que pour l'instant, c'est payant. Il a un des meilleurs duos, si ce n'est pas le meilleur duo de pilotes de la grille. Il a aussi réussi à sécuriser les services de Lando Norris, qui aurait pu être tenté de partir. Quand on est un pilote de talent comme ça, il était côtoyé par plusieurs écuries. Donc, je pense qu'encore là, il y a eu une bonne vision de sa part. Il sait que le marché des pilotes autonomes allait être très actif en 2024, dans la fin de la saison ou même au cours de la saison. Donc, il s'est empressé de sécuriser les services de Lando Norris pour plusieurs saisons, et de sécuriser son duo en place. Donc, plusieurs bonnes décisions de ce côté-là. Il y a aussi le fait que pour l'instant, McLaren se retrouve à être l'écurie qui a le plus d'ententes commerciales. Donc, on a beaucoup de sponsors, là, des commanditaires, là, autant avec des compagnies internationales comme Google, Coca-Cola. On est allé arracher Monster à Mercedes. On a aussi DeWalt, on voit Jack Daniel. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gros noms qui sont sur la voiture, qui sont sur les uniformes de piste. Donc, c'est vraiment une écurie qui est en santé et aussi qui apporte des gros noms à la Formule 1. Donc, ça, on doit tout attribuer ça, ce succès-là, au travail de Zak Brown. Donc, je pense que c'était vraiment la moindre des choses de lui offrir une prolongation de contrat et de vouloir poursuivre avec lui au du moins jusqu'à 2030. Donc, une bonne nouvelle autant pour la Formule 1 que pour l'écurie McLaren. On veut les voir réussir. C'est une écurie qui est riche en histoire. On veut les voir continuer sur la progression de l'année dernière, même si c'était mal commencé en début de saison. Bien, on s'était très vite repris. On avait réussi à vraiment retourner le bateau de bord là, pratiquement à 180 degrés. On avait réussi à remettre ça dans la bonne direction et continuer la progression. Donc, en espérant qu'on puisse continuer de voir l'écurie retrouver ses notes de noblesse au cours des prochaines saisons. Parlant de marketing, eh bien, du côté de Red Bull, on a fait l'annonce comme quoi on aurait des livrées spéciales au cours de la saison. Donc, vous savez, les livrées, c'est les fameuses, dans le fond, c'est les décorations sur les voitures. Donc, les gens aiment bien ça, là, que les autos changent un peu, qu'on ait des nouveaux designs. Bien, du côté de Red Bull, on est souvent dans la... On va dans la normalité, donc on ne cherche pas nécessairement à redéfinir notre emblème qu'on a réussi à afficher, là, notre emblème de marque. Quand on est sur une piste de course, ben ils sont faciles à reconnaître, les Red Bull. On a travaillé fort pour en arriver là, donc normalement, on touche pas trop à ça. Mais la saison dernière, on a fait des concours, donc les partisans étaient appelés à faire des livrées spéciales, participer au concours, et ceux qui se retrouvaient à être choisis Mais avaient la chance de voir leur voiture, de voir les pilotes Sergio Pérez et Max Verstappen conduire la livrée qu'eux autres mêmes avaient fait. Donc cette année, on va récidiver avec le même concept. Ça sera à Silverstone, à Singapour et à Austin au Texas. C'était là l'année dernière aussi, là, un des destinations où on avait choisi d'opter pour ce concours-là était au Texas. Donc il y aura ces trois emplacements-là. Mais il y a aussi un autre moment dans la saison où on va honorer notre partenaire Mobil qui célèbre ses 50 ans, Mobil qui œuvre dans le domaine des lubrifiants. Donc à ce moment-là, on va avoir une livrée spéciale. On a préparé là, chez Mobil, partout ce qu'on a des ententes en sport automobile, on a préparé plusieurs livrées pour honorer ces 50 ans-là. Donc Red Bull va se joindre à la partie. Alors, on ne sait pas encore quand est-ce, à quel moment on va décider de honorer notre partenariat avec Mobil. C'est un partenariat qui est depuis 2017. On sait, avant Red Bull, avait un partenariat avec Total. En 2017, on a changé à Mobil. Donc, au cours de la saison, là, on va avoir quatre livrées spéciales, trois qui vont venir d'un concours avec les partisans, que vous pouvez d'ailleurs participer si vous voulez vous joindre au concours, là. C'est sur le site de Oracle Red Bull Racing. Vous allez être en mesure de trouver ça assez facilement, là, comment participer au concours, de voir tous les règlements, tout ça, comment on fait. Puis, comme je vous dis, vous avez trois chances au cours de la saison d'avoir votre voiture qui va être choisie. Puis, en plus, Red Bull offre la chance si votre voiture, là, le concept que vous avez élaboré et retenu, mais vous aurez la chance aussi de voyager et d'aller assister au Grand Prix pour voir votre voiture sur place. Et puis, c'est ça. En plus des trois qui seront issus du concours, bien, il y aura celle qui sera la livrée mobile au cours de la saison qu'on va avoir la chance de voir. Parlant cette fois-ci là, de livrée, mais c'est plus de châssis, c'est dans le dossier Williams. Vous êtes pas sans savoir le rendu là, qu'est-ce qui s'est passé un peu avec Williams au cours du week-end. On a eu un problème avec l'accident d'Alex Albon essai libre, la première séance d'essai libre, et à ce moment-là, on n'avait pas de châssis de remplacement, donc on a dû prendre celui à Logan Sargeant et le transférer du côté du garage là, pour la portière et la voiture numéro 23. Donc à ce moment-là, on a changé les châssis, puis ce qui est arrivé, eh bien, Williams, on n'en a pas de remplacement. Quand même qu'on voudrait, on aurait voulu en mettre un autre, on n'en a pas de prêt à l'usine, puis on n'a pas l'intention d'en préparer d'autres, on a trop de retard. Donc ce qu'on a fait plutôt, c'est qu'on a pris le châssis endommagé, on l'a mis sur un avion. On l'a renvoyé en Angleterre et on va profiter du 2 semaines avant le Japon pour tenter de faire une réparation là, la plus rapidement possible et sécuritairement possible pour que ça respecte toutes les normes qui sont fixées par la FIA. Et puis, on va retourner ça au Japon. Donc, on a un peu moins de 2 semaines là, pour compléter le travail et être capable de renvoyer ça pour que tout soit prêt pour être capable d'assembler. Sûrement qu'on va rassembler ça sur la voiture de Albon et qu'on va retourner le châssis du côté de Logan Sargeant. Mais du moins, c'est la stratégie là, pour l'instant. C'est la seule option qu'on avait qui se présentait à nous pour être capable de compétitionner à deux voitures lors du prochain Grand Prix. C'est ce qui conclut l'actualité pour cette semaine. Maintenant, passons au week-end de course qui avait lieu en Australie. La journée de samedi était le temps pour les séances de qualification. Et si vous vous rappelez, lors de l'épisode de vendredi, je vous avais mentionné que j'attendais Charles Leclerc comme grand favori pour le week-end, lui qui avait été dominant lors des séances d'essais libres. J'avais aussi dit que Max Verstappen avait été privé de 20 minutes pour trouver les bons réglages pour sa voiture, mais qu'il pourrait sûrement surmonter ça. Mais c'était à suivre. Par contre, l'erreur que j'ai faite, c'est de sous-estimer Carlos Sainz. Et avec raison, parce qu'il revenait d'une grande opération. On sait que 2 semaines auparavant, il avait été victime d'une crise d'appendice. Donc, à ce moment-là, on avait dû l'opérer d'urgence. Il n'avait pas pu faire d'entraînement au cours de la semaine, n'avait pas pu faire toutes les préparations entourant un Grand Prix. Mais c'est lui qui s'est présenté vraiment fin prêt à possiblement capturer la pole lors des séances de qualification. C'est lui qui a eu le deuxième temps. Il y a Max Verstappen, lui, là, qui a été le seul là, avec un temps canon à descendre sous la barre des 1.16. Donc, il a fait un temps de 1.15.915, ce qui est totalement, vraiment, vraiment impressionnant là, sur le circuit en Australie. On n'avait pas vu ça, un temps comme ça, dans les dernières saisons. Donc, ça, c'était impressionnant pour sa part, là. Il a vraiment choisi le moment d'élever les performances, comme il nous a habitués là, depuis déjà plusieurs saisons. Là. Il s'est rendu que c'est même plus des surprises quand il fait des coups comme ça. On attendait vraiment les Ferrari, du moins, pour ma part, j'attendais les Ferrari. Et quand on l'a vu se présenter en Q3 Verstappen, mais on a vu qu'il a tout changé ça, là, même bouleversé un peu. Je pense que Charles Leclerc ne s'attendait pas à ça. Là. Lui, il se voyait peut-être déjà en pole. Quand il a vu le temps de 1:15-915, il s'est dit, oh, moi, là, moi, j'ai du travail à faire. Puis là, finalement, il a essayé de pousser un peu plus loin la voiture, puis s'est ramassé qu'il a fait une erreur. Il a même abandonné son temps en Q3. Donc, c'est lui qui est le plus contenté de la cinquième place. Donc, c'est Verstappen au premier rang. C'était Sainz deuxième, Perez troisième. Une belle performance de Perez. J'étais vraiment content de sa qualification. Je ne m'attendais pas à le voir là. Je pensais qu'il allait même se retrouver peut-être un peu justement comme Charles Leclerc, cinquième. On sait que c'est un circuit avec des virages rapides, ce qui est normalement pas la force du Mexicain. Par contre, il a trouvé une manière de se tirer dans le pied, comme il trouve toujours des moyens, on dirait, en qualification. Là, même si depuis le début de la saison, ça va quand même bien, mais la saison dernière, il nous avait habitués à ça, puis l'autre saison d'avant aussi. Il a toujours trouvé une petite façon là, de commettre une erreur ou de venir un peu perturber son week-end, de se compliquer la donne pour le dimanche. Bien, il a trouvé le moyen, c'est en Q1. Il avait gêné le travail de Nico Hülkenberg dans une Haas, et à ce moment-là, bien, après les séances de qualification, on l'a pénalisé de 3 places sur la grille. Donc, Perez, malgré qu'il avait fait un bon travail, qu'il avait fait le 3e temps, bien, il s'est retrouvé rétrogradé en 6e place. Donc, pour le reste, pour les résultats, bien, on avait Norris 4e qui, lui, s'est retrouvé 3e. Leclerc 5e s'est retrouvé 4e. Et Piastri à bord de l'autre McLaren qui avait fait le 6e temps, bien, lui s'est retrouvé 5e. Pour ce qui est des Mercedes, mais George Russell a encore une fois réussi à avoir le dessus sur son coéquipier, le septuple champion du monde, Lewis Hamilton. Donc George Russell, là, pour l'instant, là, qui est en train de blanchir Lewis Hamilton depuis le début de la saison. Là. C'est lui qui a eu le dessus dans l'ordre de toutes les séances de qualification. Donc 7e pour Russell, 8e pour Tsunoda. Une très belle performance de Yuki Tsunoda. On sait qu'en début de saison, on s'attendait à beaucoup des Racing Bulls. On s'attendait à au moins les voir percer le top 10 régulièrement. Bien, Tsunoda commence à trouver le moyen de le faire. Il a retrouvé la façon d'être 8e, ce qui est une belle surprise en soi. Donc, on ne peut pas vraiment lui demander plus. Là. C'était le meilleur qu'il pouvait faire pour cette voiture-là. Ensuite, 9e pour Lance Stroll, lui qui a réussi à avoir le dessus sur Fernando Alonso, 10e. Hamilton, 11e, qui a été éliminé à la fin de la Q2. Donc, ça a causé un peu de surprise. On s'attendait à au moins le voir faire le top 10. On savait qu'il y avait eu des ennuis au cours du week-end. Il avait même été pratiquement dernier lors des séances d'essai libre. Mais on s'attendait à voir mieux, surtout que le matin même, le matin samedi, on a toujours une 3e séance d'essai libre. Puis à ce moment-là, les Mercedes semblaient avoir trouvé un peu les bons réglages, mais ça semble être la donne. Ça semble, un moment, on pense que les Mercedes sont de retour, on pense avoir trouvé la fenêtre de performance, puis après ça, oups, il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis ce qui est un peu inquiétant aussi, c'est que même quand les voitures ont bien performé lors de la séance d'essai libre, la 3e, bien, Mercedes ne savait même pas ce qu'on avait fait. Donc, on pouvait même pas dire, ah oui, on a fait ça, donc c'est pour ça que ça fonctionne. On était nous-mêmes les premiers surpris que la voiture performe bien parce qu'on n'avait pas fait nécessairement de réglage en conséquence pour avoir ce résultat-là. Donc, même quand ça va bien, on ne sait pas ce qu'on a fait. Donc, après ça, Albon, 12e. On sait qu'Albon, lui, il pilote avec le châssis de Sargeant. Donc, il fait doublement attention. On peut pas se permettre d'avoir d'accident chez Williams. On n'a pas d'autre spare, on n'a pas de remplacement. Même là, c'est pour une petite anecdote comme ça pour les gens qui ne sont pas au courant. Quand on a pris le châssis de Logan Sargeant, il a fallu qu'on apporte des modifications. Parce que comme normalement Logan Sargeant a la porte de garage à gauche, eh bien les trous pour charger la voiture, parce que vous savez, là, il y a un système hybride sur les voitures de Formule 1, donc quand on vient pour les brancher, donc tous les branchements, les trous pour le châssis n'étaient pas dans du bon côté, donc on a dû modifier un peu tout ça là, dans les garages. La même chose pour l'approvisionner en essence, il a fallu qu'on fasse un peu de modification là, pour être capable d'avoir les bons branchements et tout ça, parce que normalement comment les châssis sont fait à l'usine, ben on sait qu'ils sont attitrés à la voiture de Logan Sargeant. Donc, normalement, comme il a le garage à gauche chez Williams, mais normalement, ses trous sont sur le côté droit de la voiture pour qu'on puisse avoir les bons raccords et tout ça. Puis, les châssis de Alex Albon, ben lui, comme il a normalement le côté droit et non le côté gauche du garage, mais à ce moment-là, ben lui, ses branchements puis toutes ces choses-là, ces trous-là pour les approvisionnements, soit en essence ou en énergie, ben sont faits du côté gauche de son châssis. Donc, il a fallu qu'on modifie un peu ça du côté de Williams pour être capable de passer à travers le week-end. Puis du côté de Albon, bien, il a fait le 12e temps. Ensuite, Bottas, 13e. Magnussen, 14e. 15e pour Ocon. 16e pour Hülkenberg. 17e pour Gasly. 18e pour Ricardo. Ricardo, ça a été dommage. Là, vous savez, c'est un Australien. Il était chez eux pour le week-end. Il avait réussi à faire un bon temps. Il avait au moins réussi à survivre pour passer en Q2. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'il avait dépassé les limites de la piste. Donc, à ce moment-là, on efface le temps. Donc, il a été rétrogradé en 18e position, ce qui était très malheureux là, devant ses partisans. Il pensait bien avoir réussi à faire un bon temps. C'est pas le meilleur début de saison hein, pour Daniel Ricciardo. Là, on sait, là, c'est Yuki Tsunoda qui a le dessus sur lui. Lors de la première épreuve, il avait réussi à terminer devant Tsunoda, mais vous vous rappelez que c'est l'écurie, c'est l'équipe même qui avait demandé à Tsunoda de céder sa place à Daniel Ricciardo. Donc, pour l'instant, là, c'est vraiment, il est en train de se faire avoir. On s'attendait pas à ça. Là. Daniel était le possible candidat pour remplacer Sergio Perez chez Red Bull la saison dernière. Il avait fait des bons temps, autant dans les simulateurs, même quand on lui avait passé la voiture à Silverstone, il avait fait des temps qui l'auraient positionné tout juste derrière Max Verstappen sur la grille, mais là, c'est pas le cas. Là. Même s'il avait eu des bons résultats au Mexique la saison dernière, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelque chose de bon, puis on s'attendait pas. Là. Moi, pour moi, Yuki Tsunoda n'a jamais été un candidat pour avoir une promotion chez Red Bull. Je pense que même du côté, dans le clan Red Bull, on ne voit pas Yuki Tsunoda comme un possible remplaçant. On pensait vraiment que Daniel Ricciardo pouvait être en audition pour ce poste-là. Puis depuis le début de la saison, ben c'est tout le contraire. Là. Il y a de la misère à avoir le dessus sur Yuki. Donc, c'est un peu une surprise autant pour les gens de chez Red Bull que pour certains amateurs de Formule 1. Puis je pense que ça va être de voir qu'est-ce qu'on va faire. Hein. Ça, c'est toujours pas réglé. Là. Autant qu'on parle beaucoup de chez Mercedes, qu'est-ce qui va se passer cette année. Quoique Sergio Perez a un bon début de saison, mais il nous a habitués par le passé à avoir un bon début de saison. C'est des circuits qui lui sont plus favorables. À aller normalement là, jusqu'à Baku, Monaco, à ce moment-là, on l'appelle le roi des circuits routiers, des circuits urbains. Donc, aller jusque-là, il y a beaucoup, beaucoup de circuits urbains. Donc, normalement, ça tombe dans ses cartes à Sergio Perez. Il est capable de se faire plus justice puis de se tenir plus près de Max Verstappen, mais c'est après là, qu'on commence à voir les écarts. Donc, ça va être de voir si au cours de la saison, il va être capable de maintenir la cadence. Mais pour l'instant, là, du moins, allez, on va en parler un peu plus de ce qui s'est passé en course. Mais pour l'instant, il n'y a pas un mauvais début de saison que ça. Donc, on ne parle pas tant que ça de qui pourrait le remplacer chez Red Bull. Mais ça va venir sur les conversations au cours de la saison. Il n'y a pas juste chez Mercedes là, qu'on cherche un deuxième pilote pour la saison 2025. Et puis, celui qui a pris le 19e rang, eh bien, c'est Guan Yu Zhou qui a été le plus lent. Il n'y avait pas 20 voitures cette semaine. Vous savez pourquoi, l'on l'expliquait avec la situation de Logan Sargeant. En passant au week-end de course au Grand Prix d'Australie qui avait lieu dimanche. La journée de dimanche était jeune d'à peine quelques minutes et c'était déjà le temps d'éteindre les rouges et de lancer la troisième épreuve de la saison 2024 en Formule 1. Statistique intéressante, jamais le top 3 en Australie a terminé au top 3. Donc, on savait déjà, avant même que les rouges s'éteignent, que les voitures soient lancées en piste, qu'il y en a une de ces trois voitures-là qui avait de grandes probabilités de ne pas terminer dans cette position-là. Ce qu'on n'attendait peut-être pas, c'était que ce soit Max Verstappen qui voit son Grand Prix être arrêté de court, lui qui a eu un bris mécanique dès les premiers tours. Ce qui est arrivé, c'est que quand il a positionné sa RB20 sur la grille de départ, eh bien, son frein arrière, là, sur la roue droite arrière, a resté coincé. Donc, tout le long de l'épreuve, pour les premiers tours, il roulait comme s'il avait le frein à main là, d'embrayer. Là. Vous savez, là, pour les gens qui ont des voitures, ça vous est sûrement déjà arrivé, vous oubliez de déclencher votre frein à main, mais à ce moment-là, le derrière est beaucoup plus lousse. Mais c'est ce que le Néerlandais se plaignait lors des premiers tours. Il disait, j'ai la voiture lousse, je sens que l'arrière glisse, il se passe quelque chose. Puis finalement, bien, c'était son frein qui était coincé. Donc, un incendie qui a pris dans la roue. Ça a été, il a dû immobiliser sa voiture. On a même vu une explosion là, lors qu'il rentrait au puits. Il a été chanceux parce que, ou du moins les gens autour ont été chanceux parce que si ça avait été dans la ligne des puits, il aurait nécessairement eu un blessé. Parce que ce qui est arrivé, c'est que c'est dans la petite portion où il y avait des murs de béton de chaque côté que le frein a décidé de complètement exploser et de s'éjecter de la voiture, mais ça a été frappé dans le mur de béton et ça n'a pas blessé personne dans la ligne des puits. Donc vraiment, ça a été au bon moment que tout a décidé de lâcher pour lui. Eh bien, sa course a dû mettre un terme prématurément à sa course. C'était le premier abandon en 43 Grands Prix pour lui. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu un bris mécanique chez Red Bull, ce qui était assez invraisemblable, là. On sait que les voitures en Formule 1 sont de plus en plus fiables, puis qu'on a de moins en moins de problèmes de fiabilité, mais de se rendre là à 43 Grands Prix consécutifs pour lui, là, 2 ans du côté de Red Bull, ben c'est une belle statistique à avoir. Ça n'arrive pas souvent, donc c'est un cas isolé, c'est ça qu'on va se dire. Ça l'a aussi ouvert la porte, puis moi ce que j'ai aimé, c'est que ça l'a rappelé aux gens, là, même s'il y a des écuries où il y a des pilotes comme Verstappen qui font que ça a l'air facile de gagner des grands prix de Formule 1, ben ça ne l'est pas. Eh bien, c'est venu rappeler ça un peu à tout le monde de dire que c'est compliqué de gagner un grand prix. Il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de choses à mettre ensemble, il y a beaucoup de pièces à un casse-tête qu'il faut assembler pour être capable de faire un week-end aussi dominant comme Red Bull nous a habitués depuis déjà 3 saisons en Formule 1. Donc, on est capable de vraiment nous montrer week-end après week-end qu'on est capable d'être compétitif, mais ça peut arriver. Ça arrive à un prix mécanique. Les voitures, là, c'est fait par des êtres humains. Même si parfois on a l'impression qu'ils sont très très proches de la perfection, ben ça peut arriver. C'est ce qui est arrivé. C'est lui qui s'est retrouvé de ce mauvais côté-là lors du week-end. Donc son frein qui était resté coincé. Donc ça l'a ouvert la porte tout grande à Carlos Sainz de pouvoir saisir l'opportunité de gagner le Grand Prix. Ce qu'il a fait d'ailleurs, il l'a fait de main de maître. Il a fait un sans faute tout au long du week-end. Carlos Sainz, oui, vendredi ça a été un peu plus compliqué pour lui, mais ça on comprend pourquoi. C'était le temps de rattraper son rythme. Il avait fait aucun préparatif en vue du week-end. Dans la journée de samedi, il a été très, très bon. Et puis, dans sa journée de dimanche, bien, on l'a vu, là, il a atteint le summum de son week-end et c'était au bon moment. Donc, Carlos Sainz, ça a été le pilote de la journée. D'ailleurs, c'est lui que vous avez voté de façon unanime. Je ne pense pas qu'il y avait vraiment d'autres candidats à recevoir ce titre-là. Pour ma part aussi, j'ai trouvé que son week-end a été parfait. Un des très bons week-ends dans sa carrière. Pas mal tous les week-ends où il a réussi à gagner. Il a remporté 3 épreuves dans sa carrière en Formule 1. Donc, à tous les fois, ça a été pas mal ses meilleurs week-ends. Mais quand il est capable d'être comme ça, Carlos Sainz, d'être aussi, de ne pas faire d'erreur, de vraiment, vraiment être concentré, d'être capable de vraiment aller chercher le meilleur de chaque séquence d'un week-end de course, d'aller chercher le meilleur de sa voiture. Il est vraiment un bon pilote. C'est là qu'on peut se demander s'il pourrait être de matériel à être champion du monde. Le problème, c'est qu'il n'a pas la constance. Il y a toujours une erreur qui survient à des moments dans la saison, des moments où ce n'est pas le temps. Et c'est ce qui fait pour la raison pourquoi on le nomme. Moi, je le nomme jamais, là, mais je pense qu'on peut dire très peu souvent que des gens vont le nommer comme un candidat à devenir champion du monde. Et ce qui est un peu aussi, c'est un peu drôle aussi dans cette situation-là, c'est que oui, il remporte le Grand Prix. Il est aussi le seul pilote à avoir battu Red Bull dans les 2 dernières saisons. C'est lui qui avait gagné à Singapour, puis là, il le fait au Grand Prix d'Australie. C'est le seul qui est capable de battre les Red Bull, mais c'est celui qui n'a pas d'emploi l'année prochaine. Donc, il se retrouve sans contrat. Donc, le seul pilote de la grille capable de battre l'écurie autrichienne, mais pour l'instant, il n'y a pas d'emploi l'année prochaine. Il n'y a pas de volant là, pour 2025. Donc, j'ai hâte de voir là, c'est qui va décider de lui en offrir un. On avait des rumeurs avec Mercedes. Il y a toujours des rumeurs aussi, considération qu'il pourrait remplacer Sergio Perez chez Red Bull. Donc, ça reste à voir. Mais une chose qui est sûre, là, c'est que il va pas se retrouver pas de volant l'an prochain. Là. Ce serait vraiment une catastrophe que personne ne lui offre un poste. Je pense pas qu'on va en arriver là. Si au pire des cas, ça sera chez Audi, mais je pense qu'il va se trouver un volant, puis ça devrait se faire prochainement. Du moins, s'il n'a pas attiré l'attention avec sa performance lors du week-end qui vient d'arriver en Australie, mais il avait aussi connu un bon week-end à Bahreïn. Si ça n'avait pas été de son opération d'urgence là qu'il a dû subir en Arabie Saoudite, il aurait sûrement eu un bon week-end là-bas aussi. Donc, à surveiller là pour le reste des performances, mais pour l'instant, il est bien parti. C'est un bon début de saison. Et puis, ça ramène un peu à l'ordre. Hein. Ça ramène, tu sais, le classement des pilotes, mais il est plus serré qu'on pensait. On voit que là, maintenant, on a Charles Leclerc qui aurait pu, hein, même aujourd'hui, ça aurait pu être une stratégie de Ferrari, on ne l'a pas fait, là, puis je pense que bien des gens se seraient outrés de ça. Mais si on avait voulu vraiment jouer le point stratégique, on aurait pu demander, je pense pas qu'il l'aurait fait, car je pense pas que Sainz aurait accepté. Mais si on avait laissé la position à Charles Leclerc, bien, Charles Leclerc aurait pu passer devant Max Verstappen au classement des pilotes avec une victoire. On a décidé de ne pas le faire, puis je pense que c'est encore tôt dans la saison pour opter sur des stratégies comme ça. Mais ça a resserré le classement des pilotes. Là, maintenant, là, on a 4 pilotes qui sont proches de pouvoir s'emparer de la tête. On a Carlos Sainz, on a bien entendu, on a Charles Leclerc qui est 2e, on a Sergio Perez 3e, on a Sainz qui est rendu 4e, on a même Oscar Piastri, ben lui, qui est un peu plus loin tout ça. Mais on a vraiment une meilleure compétition qu'on pensait avoir. Certains pensaient que c'était déjà gagné, c'était fini d'avance. Autant même pour le championnat des constructeurs, ça s'est resserré lors du week-end. Donc, on va en parler un peu tantôt, là, je vais vous démêler tout ça. Pour l'instant, avec les grands titres, eh bien, Verstappen sorti, bien, ça ouvrait la porte grande. On a eu un doublé Ferrari. Donc, Charles Leclerc, deuxième. Lando Norris, troisième. Oscar Piastri, quatrième. Sergio Perez, cinquième. Sixième pour Lance Stroll, très belle performance. Pourquoi il est sixième Stroll? Mais on va en venir à ça. C'est qu'il est arrivé un petit quelque chose avec son coéquipier Fernando Alonso. Septième Tsunoda, Alonso huitième. Ce qui est arrivé, c'est qu'Alonso a été pénalisé après l'épreuve. On en parlait un peu là après ça. Là, c'est un peu douteux ce qui est arrivé. On avait, ben, je vais en parler tout de suite, ça va être réglé. Ce qui est arrivé, c'est que Fernando Alonso a été pénalisé pour avoir eu une conduite erratique. Donc, on a jugé par la télémétrie que Fernando Alonso aurait freiné plus qu'à la normale. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une moyenne avec tous les tours lors de l'épreuve. Puis, on a vu que à tous les fois qu'il passait dans ce virage-là, ben, il freinait pas autant. Ce qui est arrivé, c'est qu'en freinant de façon avec cette conduite erratique-là, ben à ce moment-là, c'est que ça a causé un accident. George Russell, qui le suivait en fin d'épreuve, qui voulait gagner une position sur l'Espagnol, ben à ce moment-là, il a donné un coup de volant, il a eu une perte d'aérodynamique sur sa voiture, une perte aérodynamique, et à ce moment-là, ben la voiture a moins collé, il a perdu le contrôle, il s'est ramassé dans la clôture, il s'est même retrouvé en plein milieu de piste, la tête à l'envers, là, il criait le drapeau rouge, drapeau rouge, drapeau rouge, il y a eu une instance de panique de sa part, avec raison, parce qu'il s'est retrouvé en plein milieu de la piste. Puis on a jugé là, après ça, on a porté plainte du côté de Mercedes. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme Mercedes distribue les groupes motopropulseurs à Aston Martin, bon, on avait accès à plusieurs données. Donc on était capable de voir là, du côté d'Alonso, on disait ah, ben, j'ai eu des pertes de moteur en fin d'épreuve, il fallait que je coupe à certains endroits et tout ça. Mais ça, ces statistiques-là, on pouvait tout de suite les vérifier. On pouvait tout de suite voir est-ce qu'il y a vraiment eu un problème de moteur à cet endroit-là ou c'est simplement qu'il a voulu freiner. On ne voit pas dans les statistiques là, du côté de Mercedes, on voit seulement les données moteurs. Donc, on ne voit pas nécessairement s'il a appliqué les freins trop prématurément, mais on était capable de voir quand même qu'il avait descendu ses vitesses, qu'on a vu qu'il n'y avait pas nécessairement un problème de moteur à ce moment-là. Donc, on était capable de fournir déjà des preuves intéressantes là, pour l'enquête des commissaires. Ben là, du côté des commissaires, ben, on a décidé de pénaliser Alonso pour 20 secondes. Ce que j'ai de la misère avec ça, c'est que on a vu depuis le début de la saison des situations où les pilotes, dans les zones de freinage, ce qui est très dangereux, c'est qu'on voit à certains moments les pilotes bouger la voiture dans des zones de freinage. C'est arrivé notamment depuis le début de la saison, le Lewis Hamilton sur Oscar Piastri en Arabie Saoudite. Lando Norris, là aussi fait du côté, cette fois-ci, c'était à Lewis Hamilton, aussi en Arabie Saoudite. Puis on n'a pas vu les commissaires pénalisés. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas changer deux fois de direction dans une zone de freinage. On doit décider quelle place qu'on veut prendre lorsqu'on amorce un freinage et laisser la place à l'autre voiture, là, de ne pas venir lui couper le chemin à la dernière minute. Ça, c'est une règle qui est écrite noir sur blanc. Depuis le début de la saison, on a vu des cas comme ça. On en a même vu lors du week-end, là, Alex Albon, je pense qu'il y avait un as. Il y a eu une situation semblable à ça. Puis, on n'a pas décidé d'intervenir du côté des commissaires. Par contre, lorsqu'avec ce qui est arrivé avec Alonso, on a décidé de dire « Ah, conduite erratique, t'as changé ta conduite de façon à gêner le pilote qui suivait, donc on te colle une pénalité de 20 secondes, pas juste une pénalité de 10 secondes. Vous savez, cette saison, les pénalités sont plus sévères que normalement. Là. Si on cause un accident, on peut aller jusqu'à 10, puis on peut même aller jusqu'à 20 avec conduite dangereuse. C'est ce que je trouve particulier, encore là. Il n'y a pas de ça place une zone grise. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice là, de dire que on laisse aller des choses, puis d'autres situations, ben là, on décide de pénaliser. Donc, pour ma part, je me dis, si on pénalise Alonso, puis on a les statistiques, les données pour montrer qu'on avait raison de le faire, je suis d'accord avec ça. Puis c'était le cas, on avait les données pour le faire. Mais ce que j'ai de la misère avec, c'est que dans d'autres cas, où on a aussi les preuves pour le faire, mais on a décidé de ne même pas intervenir, de même pas ouvrir d'enquête. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que ça devient encore une fois dur à comprendre qu'est-ce qu'on faire. Il y a aussi le fait que dans le rapport, on écrit qu'on n'est pas capable de déterminer qu'Alonso a nécessairement fait exprès ou a provoqué l'accident de George Russell. Mais si on n'est pas capable de déterminer qu'il a provoqué l'accident, pourquoi qu'on le pénalise 20 secondes? S'il n'y a pas de preuve qui nous montre que oui, c'est ça qui a causé l'accident de George Russell, puis qu'on n'est pas capable de dire hors de tout doute, pourquoi qu'on lui colle 20 secondes à ce moment-là? Bon, au pire, on aurait pu lui en coller 10, on aurait pu lui en coller 5. Pourquoi qu'on va jusqu'à 20 si on n'a pas ces preuves-là? Parce que pour ma part, je pense qu'il y a une part de responsabilité qui revient à George Russell aussi. Il nous a habitués par le passé à avoir des accidents en fin de tour, à se laisser déconcentrer par la voiture devant. On l'a vu l'année saison dernière à Singapour. C'était fait déconcentré. Il était en poursuite de Lando Norris. Lando Norris avait fait une drôle de manœuvre. Ça avait déconcentré George Russell, puis il avait pris le champ. Donc, il nous a habitués à ça. Donc, de donner la responsabilité à Fernando Alonso pour cette perte de contrôle-là de George Russell, c'est un peu tiré par les cheveux, mais du moins. C'est la décision qu'on a prise. Donc, ça reste à voir. J'espère que ça va rester dans les documents des commissaires, puis qu'il va y avoir une suite à ça si jamais il y a des situations semblables au cours de la saison. Aussi, encore là, une statistique un peu farfelue, là, c'est qu'à tous les fois que Carlos Sainz remporte une épreuve, ben George Russell est victime d'un accident. C'est arrivé lors de la première victoire de Carlos Sainz à Silverstone. George avait eu un gros accident. C'est arrivé à Singapour, on vient d'en parler. C'est arrivé lors du week-end aussi. La troisième victoire en carrière de Carlos Sainz. George a eu un accident aussi en fin d'épreuve. Donc, une statistique comme ça veut dire ce que ça veut dire, là. Mais normalement, si Carlos Sainz remporte une épreuve, ben, à la place de George Russell, je fais très attention dans mes derniers tours parce qu'il y a des chances qu'il arrive quelque chose. Fait que ça, c'est ce qui est arrivé dans cette situation-là. Ça a été la grosse situation du week-end et c'est venu un peu chambarder les résultats. Par contre, ça n'a pas changé la course à George Russell. Il s'est ramassé à pas être capable de terminer quand même. Ensuite, après Alonso, 8e, 9e, Hülkenberg, Magnussen, 10e, 11e pour Albon, 12e pour Ricciardo, 13e pour Gasly, 14e pour Bottas, 15e pour Joe. Ça, là, du côté de les voitures Sauber, le kick lors du week-end, c'est le même qu'on les appelait. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Ça, c'est une vraie farce, là. Je sais pas si vous avez vu, mais les aéropuits, on a des problèmes avec les écrous. Puis on est au courant de ça depuis le début de la saison. Puis là, on fait des aéropuits, là, 28 secondes d'aéropuits pour Valtteri Bottas lors du week-end. Mais ça vaut-tu vraiment la peine de participer au week-end de course quand on sait qu'on va avoir 28 secondes en aéropuits? Pendant qu'on a des écuries, là, rappelez-vous la saison dernière, là, du côté de McLaren, on a réussi à faire un arrêt en bas de 2 secondes, là. Puis du côté de Red Bull, qui est la norme, là, on frôle les 2 secondes normalement pendant des aéropuits. Au maximum, on va à des 2,5 secondes, des 2,4 secondes. Puis là, du côté de Sauber, on se dit, ah ben, si on fait attention avec nos écrous, on a trouvé un moyen, puis on est capable de faire des aéropuits à l'intérieur de 5 à 6 secondes. Non, mais c'est une joke, là. Vous voulez faire quoi avec ça? Pourquoi vous. Moi, être un pilote, là, puis me dire, écoute, on va changer tes pneus, aujourd'hui c'est une journée de 2 arrêts, puis on va essayer de te coûter en bas de 12 secondes sur tes 2 arrêts. T'as pas de bon sens. Je pilote, pourquoi? Moi, je course contre qui? C'est parce que si on a oublié du côté de Sauber, là, ça s'appelle une course. Fait que le but, là, c'est de faire tout le plus rapidement possible. Si vous n'êtes pas capable de trouver des écrous qui se changent dans des délais raisonnables, ça devrait devenir votre priorité, là. On arrête tout, puis oui, du côté de Williams, on n'a pas de châssis de remplacement, mais du côté de Sauber, nous, on a des écrous qui se dévissent pas. À un moment donné, là, ça fait pas sérieux, là. On s'en va, là, dans quelques saisons, on va devenir Audi. Moi, si je m'appelle Audi, puis je vois ça, là, j'ai quasiment le goût d'intervenir directement sur le problème, puis de dire, on va vous en trouver des écrous, on va faire des tests. Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça vient trop chaud. Quand on arrive avec le gun, ben, on n'est pas capable de les défaire automatiquement, donc on est obligé de prendre notre temps. C'est ce qu'on a trouvé, là, c'est le nouveau remède, de dire, ben, si on y va lentement, puis doucement, puis on fait attention à l'écrou, ben, à ce moment-là, il se défait pas, puis on est capable de mieux le sortir, puis d'être capable de faire ça dans des délais raisonnables. Eux autres raisonnables avec plusieurs parenthèses, de 5 à 6 secondes. Ça, c'est la nouvelle stratégie, là, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour le week-end. Finalement, ça n'a pas été un grand succès. Puis en plus, pour rajouter là, à la comédie, bien, on a un écrou qui a pratiquement explosé dans le gun, qui a revolé dans la ligne des puits, puis ça nous a coûté 5 000 $ d'amende. Fait que, ouais, c'est là qu'on est pour kick. Fait qu'en tout cas, on va voir, là, ça va être dossier à suivre dans les prochaines semaines, mais ça fait que les pilotes, ils courent absolument pour rien. Parce qu'ils ont terminé, ben, avec tout ça, ils terminent 14e puis 15e. Puis, comme je vous dis, Bottas, il y a eu 28 secondes de stationnaire d'un puits pendant toute sa course. Fait que c'est pas évident de faire quelque chose avec ça. Mais on a quand même réussi à battre la Alpine de Ocon. C'est peut-être juste ça la bonne nouvelle, qui a terminé 16e. 17e pour Russell, ben, il n'a pas pu terminer la course, on en a parlé. Hamilton, bien lui, ça l'a rajouté au week-end difficile de Mercedes, au week-end difficile du septuple le champion du monde. Son moteur a lâché en pleine piste, donc il n'a pas pu terminer l'épreuve. Donc, les deux grands rivaux et ceux qui sont une combinaison là, de 10 championnats du monde à 2, Hamilton et Verstappen, ont regardé le reste du week-end de course des paddocks. Donc, ça a été un peu plate de ne pas les avoir pour le long, pour animer un peu le spectacle. Mais Hamilton, là, il était vraiment pas dans le coup. tout au long du week-end, c'était assez dur pour lui. Donc, à ce moment-là, c'est ça, c'était pas facile. C'était un week-end un peu à oublier. L'autre chose qui reste à souligner aussi, c'est l'erreur côté stratégique de McLaren. McLaren a commis une erreur. Si on avait arrêté Lando Norris avant Oscar Piastri, Lando le mentionnait, puis on a refait les calculs avec les statistiques. Même quand c'est arrivé sur le coup, on le voyait, on ne comprenait pas pourquoi on avait fait ça. On aurait sûrement terminé devant la Ferrari de Charles Leclerc. Du côté de Lando Norris, on était plus rapide. Donc, on le voit, hein? Gagnant en Formule 1. On pense que c'est facile parce qu'on voit des écuries comme Red Bull. On a vu Mercedes pendant plusieurs saisons. On voit des pilotes comme Max Verstappen, comme Lewis Hamilton. Mais c'est un tout. Il y a plein de choses. Il y a le côté mécanique, mais il y a aussi le côté stratégique. Donc, McLaren, on avait une bonne voiture pour le week-end. On a deux bons pilotes. Mais si on ne fait pas les bonnes décisions stratégiques, puis si on fait des erreurs, où on improvise, puis on dit, ah, oh, Oscar Piastri rentre avant, puis on va se rattraper après, puis on va les inverser en piste. Ben, ce que ça fait, c'est qu'on perd du temps, on laisse un avantage à nos adversaires, et ça a ouvert la porte à Ferrari à saisir l'opportunité, puis à gagner, à faire un doublé avec nos deux voitures. Ce qui n'aurait pas dû être le cas. Si on regarde les statistiques, normalement, Lando Norris aurait dû terminer devant Charles Leclerc. Donc, petite erreur sur ce week-end-là du côté de l'équipe Orange Papaye. Ça va être à corriger lors des prochains week-ends. On nous demandait aussi à certaines personnes qui se posaient la question, est-ce que Ferrari est rendu plus rapide que Red Bull? Je pense que c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Le fait qu'on n'avait pas Max Verstappen pour comparer, bien, on sait que c'est la grande comparaison. Là, on ne peut pas vraiment faire les comparatifs avec Sergio Perez. Perez, là, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit, ah, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, il a terminé cinquième. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des dommages à sa voiture. Après avoir complété son dépassement sur Fernando Alonso, il aurait ramassé des dommages donc sur son plancher. Donc, il n'avait plus autant de force ou d'appui aérodynamique. Donc, il ne pouvait pas être aussi rapide. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas vraiment pu se faire justice. Mais encore là, seulement cinquième. Est-ce qu'on aurait aimé le voir mieux performer, aller chercher des points, peut-être saisir l'opportunité pendant que Verstappen n'est pas là, d'être capable d'aller possiblement chercher une victoire? Je pense que c'était rendu impossible pour lui après. Ce qu'il avait accroché, mais encore là, tout s'est joué le samedi. Si samedi, il n'avait pas fait cette erreur-là de bloquer le Hülkenberg, bien, il aurait peut-être été en position de remporter le Grand Prix. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être capable d'être bon sur les 3 jours pour compléter et accumuler le maximum de points. Et ça, c'est Carlos Sainz qui a fait le bon du travail. Même chose pour Charles Leclerc. Si Charles Leclerc n'avait pas fait son erreur lors des séances de qualification samedi, c'est peut-être lui qui l'aurait monté sur la plus grande marche du podium. Donc, c'est encore trop tôt pour voir, mais il y a une chose qui est sûre. Ça semble mieux structuré chez Ferrari. On l'a vu, on avait la chance de gagner un Grand Prix. Oui, on n'avait pas la pression. J'aurais aimé ça voir Red Bull là pour leur mettre un peu de pression, savoir si on a vraiment travaillé ce côté-là stratégique. Mais on a eu l'air plus structuré. On a pris les bonnes décisions, même si on n'avait pas nécessairement cette pression-là. Ben on les voyait au cours des dernières saisons. On n'avait pas vraiment besoin d'avoir de pression pour commettre des erreurs. Mais ça semble mieux. Donc ça va être intéressant. Mais j'ai hâte de voir un Grand Prix où ce que là vraiment on a des décisions à prendre contre un adversaire qui nous met vraiment de pression. Si on l'avait pas échappé du côté de McLaren, on aurait pu voir cette situation-là se présenter où ce que Ferrari aurait eu à prendre la meilleure décision possible pour avoir l'avantage sur un adversaire. Mais c'était pas le cas, mais au moins, on n'a pas fait d'erreur. On a signé le doublé. L'opportunité s'est présentée à nous, puis on a su la saisir. Donc, déjà là, c'est une progression par rapport à l'année prochaine. La voiture semblait bien répondre. L'usure des pneus aussi, ça semble mieux que ce qu'on a vu par rapport des autres saisons. Donc, j'ai vraiment hâte à l'autre Grand Prix de voir au Japon ce qu'on va être capable de faire. Ça devrait être un circuit qui favorise la Red Bull. Donc, ça va être si on est capable de répondre du côté de Ferrari et d'inscrire 2 victoires en autant de Grands Prix. C'est ce qui complète le week-end de course. Maintenant, passons aux questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou adresse courriel F1podcast en un mot, à commercial, gmail.com. La première question nous vient de Philippe qui nous demande pourquoi est-ce que les pilotes sont pesés avec leur casque après les séances de qualification. Eh bien, Philippe, ils le sont aussi après la course et la raison est fort simple. C'est qu'on doit rencontrer un poids minimum de 80 kg, ce qui inclut leur casque, combinaison ainsi que leurs chaussures. Ceci est jumelé à leur voiture pour un poids minimum de 798 kg. Si jamais on n'est pas capable de rencontrer cette exigence-là, ben on va être obligé du côté de les écuries d'ajouter du poids à bord de la voiture. Et si jamais on était capable de prouver après les séances de qualification ou la course que le 798 kg n'a pas été respecté, ben ceci pourrait entraîner une disqualification. La deuxième question nous vient de Sylvain de Montréal qui nous demande, j'entends à plusieurs endroits et je lis, comme quoi Max Verstappen pourrait quitter Red Bull et rejoindre les rangs de Mercedes dès l'an prochain. Vous en pensez quoi? Est-ce des vraies nouvelles ou simplement des nouvelles bonnes pour la poubelle? Eh bien, je pense que vous avez mis le doigt dessus, c'est vous qui le dites. Je pense que c'est bon pour la poubelle, Sylvain. Max Verstappen n'a aucune raison de s'en aller ou de quitter Red Bull, encore moins de s'en aller chez Mercedes. Il a aussi la mémoire longue. Rappelez-vous que Toto Wolff a souvent diminué les exploits du Néerlandais au cours des dernières saisons en disant que ses records, c'était bon simplement pour Wikipédia. Qu'il n'y avait pas de vrai coéquipier. Il a même déjà laissé sous-entendre qu'on donnait une meilleure voiture à lui qu'on en donnait une à Perez. Donc tout ça, je pense que Max Verstappen, il a la mémoire longue. Il sait ce que Toto Wolff a dit à ses dépens. Il sait ce que, même du côté de Mercedes, on a déjà voulu laisser croire. Donc je pense que ça ne l'intéresse pas d'aller rejoindre les rangs de l'écurie. Là, Toto Wolff est mal pris. Il se retrouve qu'il a perdu son pilote, mal pris, où certains diront que c'est une bonne affaire, qu'ils n'ont plus besoin de Lewis Hamilton, mais là, du moins, il fait un peu de l'œil à Max Verstappen. Il aime aussi le fait qu'il y a de la bisbille au sein de Red Bull. Là, ça commence à se replacer. Là, on a eu une réunion entre Christian Horner, entre Helmut Marko, entre le père de Verstappen, puis on a décidé d'enterrer la hache de guerre, de faire la paix et de vraiment s'en aller, de retourner à ce qu'on faisait de bien chez Red Bull, c'est-à-dire performer en piste. Donc, à ce moment-là, je pense que on n'a pas de raison de s'en aller. Je pense que Toto Wolff a tout avantage à continuer à entretenir le trouble chez Red Bull. Les médias allemands font du bon travail depuis le début de la saison. On laisse couler des nouvelles, de la mésinformation. On met un peu le trouble là-dessus. Puis ça, on pense qu'au bout de la ligne, ben ça va profiter à l'écurie allemande et que Mercedes va être capable de soutirer le meilleur pilote de Red Bull. Mais pour l'instant, là, je pense qu'il n'y a rien de fondé autour de ça. Puis tant et aussi longtemps que Max Verstappen va avoir les personnes avec qui il aime travailler, c'est-à-dire Helmut Marko, Adrian Newey et même Christian Horner, parce que même s'il y a eu des différends avec le père de Verstappen, ben je pense que à l'ensemble de l'équipe, Christian Horner a toujours été un bon leader, puis a donné un terrain pour que Verstappen puisse se développer et devenir le pilote qu'il est devenu. Donc pour moi ça va continuer. Il a un contrat jusqu'en 2028. C'est un gars qui est très loyal aussi. Donc à moins là vraiment d'un revirement de situation puis de quelque chose là qui genre un renvoi d'Helmut Marko ou un départ sous quelque chose comme ça. Même là, je pense pas qu'il irait de gaieté de cœur à vouloir quitter l'écurie. Il a tout ce qu'il a pour dominer, pour continuer de démontrer à tout le monde son talent, de continuer à battre des records. Donc, je ne vois pas, non. Personnellement, là, je ne le vois pas quitter Red Bull dans un avenir rapproché. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi, mais en terminant, je vous avais dit que je ferais un petit retour là, sur le championnat des constructeurs ainsi que des pilotes qui s'est resserré avec l'abandon de Max Verstappen. Eh bien, Carlos Sainz, qui a remporté l'épreuve du week-end en Australie, eh bien, lui, il est rendu à 11 points de la tête du côté de Sergio Perez, coéquipier de Verstappen, et lui, il est à 5 points de la tête. Et pour Charles Leclerc, l'autre pilote Ferrari, lui, il est à 4 points. Et du côté des constructeurs, ça s'est resserré aussi. Maintenant, Ferrari est seulement à 4 points de Red Bull. Donc, vous voyez, rien de terminé. Il y a seulement 3 épreuves à la saison. Puis on a déjà une compétition qui est en train de se dessiner au cours des prochaines semaines. Ça va être intéressant à suivre. Vous savez que ça fait relâche. Donc, on n'a pas de Grand Prix lors du prochain week-end. Mais on va quand même avoir un épisode du F1 podcast. La formule maintenant, c'est que je vais recevoir un ou des invités. Bon, on va parler du championnat en cours. On va avoir plein de sujets intéressants pour vous. Donc, soyez là. Ça va être publié aux alentours de jeudi cette semaine. Ça sera notre prochain rendez-vous. D'ici là, faites sûr de vous abonner à notre Spotify pour être sûr de recevoir les notifications lors de la publication des nouveaux épisodes. Suivez-nous aussi sur Facebook, Instagram, on est aussi sur Twitter. Mais si vous voulez vraiment lire nos articles et nous suivre, discuter avec nous, là, la meilleure place où nous suivre, c'est vraiment sur Facebook. Vous pouvez toujours nous envoyer aussi des messages par Messenger, adresse courriel F1podcast en un mot, @gmail.com. D'ici là, bien, je vous remercie d'avoir fait confiance à F1 Podcast et bonne semaine.